le 4e centenaire de la fondation du site marial de Notre-Dame de Buglos, 1622-2022, retransmission de la journée d'études de la société de Borda, associée au diocèse d'Eredax, journée d'études qui s'est déroulée le 30 avril 2022. Les Lazaristes à Buglos au XVIIIe siècle, voici l'intervention de Jean-Michel Morlaes.
Bonjour à tous, messieurs, dames. Je serais heureux d'être ici pour cette communication sur donc, les Lazaristes, et qui va, comme M. Loupès a brillamment présenté la situation religieuse donc, de Buglos. Et il nous faut maintenant parler de ceux qui vont arriver pour gérer, on peut dire gérer au sens d'aujourd'hui, le sanctuaire, à savoir les Lazaristes. Et évidemment, on ne peut pas parler des Lazaristes sans évoquer l'enfant du pays, Vincent de Paul, puisque c'est lui, évidemment, qui va créer ce qu'on appelle les congrégations de la mission. Donc, en 1625, le pape va reconnaître ça en 1633. Et donc, cette institution, donc la congrégation de la mission, va œuvrer tout d'abord, comme vous le savez, je ne veux pas résumer la vie de Vincent de Paul ici, ce n'est pas l'objet, va œuvrer à travers tout le royaume. Et l'évêque de Dax va demander, du vivant de Vincent de Paul, d'installer une maison, comme on l'appelle, une maison des Lazaristes, dans le diocèse. Plusieurs projets vont voir le jour, vont être évoqués. Aucun ne va se concrétiser du vivant de Vincent de Paul. Et on va concrétiser tout cela beaucoup plus tard, en 1706, officiellement en mars 1706, on va enfin trouver un endroit où les Lazaristes vont pouvoir s'installer, ça va être Buglos. Il faut savoir que les Lazaristes donc, ont comme mission, donc évidemment la congrégation de la mission, d'évangéliser les plus modestes et les plus pauvres, et qui ne veulent pas dépendre de la charité des chrétiens. Il leur faut donc, quand ils s'installent quelque part, avoir des revenus, une assurance d'avoir des revenus sur lesquels ils vivent et ils font leur travail. Donc il fallait impérativement avoir un bénéfice ecclésiastique. À l'époque, c'est tout simplement avoir une cure, parce que lorsqu'on a une cure, on a un revenu qui y est attaché, et avec ce revenu, on peut vivre et faire ce que l'on veut du surplus quand il y en a. Voilà. Donc ils obtiennent la cure de Pouy, anciennement, donc Pouy, aujourd'hui Saint-Vincent-de-Paul, donc Pouy, donc, qui a comme annexe Buglos, et donc ils vont s'installer dans la paroisse. Très vite, je ne sais pas ce que nous avons comme diocèse, il faut parler du diocèse. Le diocèse de Dax, à l'époque, n'est pas comme fichu comme il est fait aujourd'hui. Il y a une grande partie du diocèse qui se trouve tout à fait au nord, toujours, vous voyez, dans les hauts, dans les pays de la Grande Lande, ce qu'on appelle. Et on a une partie qui est tout à fait au sud, qui s'enfonce profondément dans le Pays Basque. On a une partie, le professeur Loupès a indiqué, qui est dans le Béarn, notamment Orthez et Salis, qui sont des pays donc tout frais catholiques, n'est-ce pas? Et donc on a un diocèse qui est très étiré et qui rassemble des populations qui sont à la fois bien landaises, qui pratiquent un patois landais plus ou moins différent dans la Grande Lande, dans la Chalosse, mais enfin qui se tient. Et on a également des populations basques qui n'entendent pas le patois. On a également des populations plutôt béarnaises et des gens simples, c'est-à-dire qui ne pratiquent pas un français comme nous le pratiquons aujourd'hui. Et il est très important d'avoir à Buglos, où viennent tous les gens de la province, des chapelains qui soient en mesure d'entendre les langues locales, le patois, parce qu'on ne peut se confier de choses intimes que finalement dans sa langue maternelle. Et on a donc des chapelains, jusqu'à ce que les Lazaristes arrivent, qui sont issus du diocèse. Nous avons la trace de chapelains qui sont issus de Basse-Navarre, du pays également de Saint-Palais. Nous avons également des chapelains purement landais. On suppose donc que tous ces chapelains sont en mesure d'être plus proches de la population. Lorsque les Lazaristes arrivent, ce ne sont pas des gens de la région. Les Lazaristes sont principalement viennent du Lot, du Quercy, etc. Parce que Buglos dépend de la province, d'une des provinces des Lazaristes qui sont organisées en province sur le pays. Elle dépend de la province de Cahors. Et donc à Cahors, il y a un grand séminaire pour les Lazaristes. Et ils viennent très souvent de là. Alors évidemment, on ne peut pas savoir s'il y a eu une fuite finalement un côté, de, si vous voulez, une espèce de barrage lié à cette origine qui n'était pas diocésaine. On peut le supposer, mais finalement, ce n'est pas certain. Le diocèse, donc, est administré par des évêques qui ont un souci autre au XVIIIe siècle, c'est le séminaire de Dax. L'histoire du séminaire de Dax, elle sait, vaut le détour. Il y a eu de grosses difficultés pour installer ces fameux séminaires prévus par le Concile de Trente, et ce n'est qu'en 1730, autour des années 1730, que le Monseigneur Dolan, l'évêque de Dax, réussit enfin à installer un diocèse qui fonctionne réellement, qui va s'installer d'ailleurs à Saint-Vincent de Xaintes. Mais les Lazaristes étaient venus déjà et avaient comme mission également de monter un séminaire. Donc on va se retrouver finalement avec un séminaire également en Buglose. Et on a ce cas dans le Nord justement, où il y a comme ça un séminaire diocésain qui forme les prêtres. Et un autre séminaire dans lequel les prêtres tout frais ordonnés vont petit peu se perfectionner, s'acquérir pour, avant d'être finalement mis en paroisse. Les Lazaristes ont comme mission également d'accueillir des retraitants de toute nature. Souvent, ce sont des prêtres qui viennent refonder leur foi pendant quelques semaines. Il y a également, à l'image de ce qui se fait à Paris, les conférences du mardi, il y a des conférences, il y a également des gens qui viennent à titre individuel faire une retraite. Il y a également des prêtres que l'on envoie à Buglose pour des questions disciplinaires. Ça peut arriver qu'un prêtre qu'on estime un petit peu perdu soit amené à rester 3 ou 4 semaines à Buglose afin de se refonder un petit peu. Enfin, il y a des gens qui passent, et il y a encore des gens qui passent et qui font de grands pèlerinages à travers l'Europe. On a la trace d'un Italien qui vient mourir à Buglose. Et comme ça, on a quelques individus qu'on repère qui vont quand même faire ce grand pèlerinage à Saint-Jacques-de-Compostelle, en passant notamment par tous les sites intéressants et notamment par Buglose. Les évêques vont œuvrer avec les Lazaristes et on va, à la fin du XVIIIe siècle, avec l'évêque Monseigneur de la Neuville, avoir également l'arrivée des filles de la charité à l'hôpital de Dax. Il faut savoir que donc, les filles de la charité, c'est la version féminine, si je puis dire, des Lazaristes, hein. Donc, qui vont petit à petit arriver à l'hôpital de Dax, sachant qu'elles étaient déjà présentes sous la forme des Dames de la Charité, qui sont une confrérie, là aussi voulue par Saint-Vincent de Paul au départ, qui était déjà présente à Dax, et qui était un but un petit peu à l'administration de l'intendant, qui ne voulait pas trop que l'on fasse la charité. On est au milieu du XVIIIe siècle, on en a un peu assez de faire de la charité, on veut que les gens travaillent, etc. Et donc, ils sont un petit peu en but avec l'autorité. Ensuite, nous avons les évêques. Vous avez donc les deux portraits des évêques qui sont conservés à l'ancienne hôpital thermal. Hein, je ne sais pas si on peut les voir, mais ils sont des beaux portraits d'époque. Ensuite, nous devons évoquer les missions. Évidemment, on ne peut pas parler des Lazaristes sans parler des missions. Comme l'a précisé le professeur Loupès, les pèlerinages à Buglose ont lieu principalement l'été, c'est-à-dire de Pâques jusqu'à la Toussaint. C'est là qu'on vient en pèlerinage, c'est là qu'on vient pour l'Autodame de Buglose. Et ça tombe bien parce que les Lazaristes, eux, ils ne missionnent que l'hiver. Vincent de Paul connaissait très bien le milieu agricole, il ne voulait pas qu'on aille missionner durant l'été au moment des moissons, au moment des travaux des champs. Donc on fait ça l'hiver, donc de la Toussaint à justement Pâques. Ça tombe bien, on va missionner. Et la mission, donc je ne sais pas si on a les tableaux des missions, ou c'est que j'ai mis derrière, je ne me rappelle plus. Voilà, ce sont les revenus. Bon, on peut en parler 2 minutes, si vous voulez, des revenus. Voilà, ces missions-là, bon, très bien. Les missions donc, qui sont fondées au tout début du XVIIIe siècle. Dès que les Lazaristes ont signé qu'ils vont être sur place, il y a des gens qui vont fonder des missions. Et on voit ici toute une série de missions dans différentes paroisses, et qui d'ailleurs ne sont pas que dans le diocèse. Il y en a également à Bordeaux, dans le diocèse de Bordeaux, notamment du côté de Lévignac, etc. Et dans le diocèse de Lescar. Donc ils fondent des missions. Il y a beaucoup de fondations de missions au début. Quand les Lazaristes arrivent, il y a beaucoup de missions qui sont fondées. Et si on peut voir sur la diapo suivante, les missions qui sont fondées dans la deuxième partie du XVIIIe siècle sont beaucoup moins nombreuses. Cela correspond avec un changement donc, de mentalité générale au point de vue tout simplement des individus de manière générale. On est moins dans la dévotion, tout ça est en train un petit peu de passer, au moins auprès des élites du moins. On est dans ce 18e siècle rationaliste, c'est l'époque des Lumières, et donc on fonde moins de pèlerinages. Et le professeur Lopez a parlé du livre de Mauriol. Il va y avoir une seconde édition en 1779 qui va être faite par un de ses successeurs, par Delmeja, qui va pratiquement reprendre ce que dit Mauriol, mais le discours, la manière de l'écriture, la manière dont il rapporte les miracles sont déjà beaucoup plus teintés d'un certain scepticisme ou d'une certaine rationalité qui n'était pas forcément présente aussi autant chez Mauriol. Et là aussi, il y a très peu de miracles qu'on recense à partir de la deuxième partie du XVIIIe siècle. Delmeja va très loin puisqu'il dit même la Vierge avait tellement fait qu'on n'avait plus besoin de prouver, faire d'autres miracles. Bon, ce qui est un peu court, évidemment, comme explication. Donc ça traduit vraiment l'esprit de cette époque-là. Sachant qu'il y a aussi une chose très importante, c'est, avec les Lazaristes, c'est la création de notre sanctuaire sur Bulos, c'est-à-dire le berceau de Saint-Vincent de Paul. Dès 1730, on a Mauriol qui conduit une procession qui va de l'église au berceau de Saint-Vincent de Paul, où on a déjà érigé une petite chapelle. Donc on a finalement un lieu qui se dédouble avec ce pèlerinage à Buglos, chez la Vierge, et puis au berceau de Saint-Vincent de Paul. Là aussi, on pourrait, pour parler comme les gens un peu vulgairement, on pourrait dire, eh bien, on a une espèce de double ticket. On va voir la Vierge et puis on a également l'intercession de Saint Vincent de Paul qui vient d'être canonisé en 1737. Donc on a une double chance, si vous voulez. Donc on a au cours du XVIIIe siècle ce basculement, si vous voulez, d'un site purement marial, tenu par des prêtres diocésains, vers un site beaucoup plus large, avec une double dévotion, tenu par une congrégation qui a une mission qui est au-delà de la gestion de Buglos et qui a aussi une mission d'évangélisation des populations. Il y a également un changement qui est conduit dans le cadre du Concile de Trente, etc., de changement des dévotions. On essaie de créer des confréries du Saint-Sacrement, du Sacré-Cœur de Jésus. Et toutes ces nouvelles confréries, pour les gens les plus modestes, sont quand même, demandent des efforts d'abstraction qui ne sont pas forcément à la portée des gens les plus modestes, et qui, pour eux, le Christ et la Vierge restent des choses très simples à comme dévotion. Nos lazaristes, donc, au milieu de toutes ces activités, doivent gérer une foule de choses. Ils doivent gérer la paroisse. Ils sont finalement seigneurs également, avec tous les droits de justice, de Pouille, et de la seigneurie, etc. Donc ils ont beaucoup de choses à gérer. Mauriol va se révéler un gestionnaire très efficace. Il va acquérir des terres, des moulins, etc., avec toutes les complications que ça engendre. Par ailleurs, le site de Buglos, la chapelle de Buglos, est le lieu dans lequel beaucoup de gens viennent se marier. Et des gens qui ne sont pas forcément de Buglos, on a des gens un petit peu de la noblesse, de la petite noblesse, qui viennent se marier à Buglos. On peut supposer qu'également, si ces gens-là viennent à Buglos, c'est parce qu'ils ont un lien particulier, certainement, avec Notre-Dame de Buglos, et qu'ils tiennent à se marier dans ce lieu-là. Et on a également des inhumations dans la chapelle. Surtout au début du XVIIIe siècle, il y a des gens qui se font inhumer dans la chapelle. Vous savez que jusqu'en 1776, on peut se faire inhumer dans une église moyennant une aumône, qui est normalement quantifiée. Et donc on se fait inhumer dans la chapelle. Ça arrive assez souvent. Par ailleurs, la gestion de la paroisse, la gestion des missions, la gestion des pèlerinages n'empêche pas les lazaristes, oblige plutôt les lazaristes à avoir des vicaires. Vous savez que le vicaire, c'est finalement un prêtre qui est dans la paroisse et qui aide le curé titulaire et qui fait beaucoup d'actes. Et c'est aussi important parce que beaucoup de vicaires qui passent chez les lazaristes se retrouvent ensuite curés dans une paroisse du diocèse. Ce qui fait que l'influence des lazaristes est diffuse à travers tout le diocèse, au travers des missions, qui ne touchent pas que la paroisse, mais souvent tout autour de la paroisse, les gens qui viennent, qui sont sensibles à la mission, et également tous ces vicaires qui finalement se retrouvent dispatchés, si je puis dire, dans le diocèse. Alors, il nous faut évoquer maintenant, donc, comme je l'ai dit, la deuxième partie du XVIIIe siècle est beaucoup moins religieuse, on peut dire qu'il y a une espèce de perte de religieuse. qui est à relativiser dans les Landes, car enfin dans ce coin-là des Landes, parce que c'est une région qui reste quand même très attachée à l'Église et au fonctionnement de l'Église. Hein. C'est les Lumières dans les Landes, c'est quand même assez relatif. Ça touche les élites, mais pas forcément le peuple. Hein. C'est très très modeste. Et on va le voir à la Révolution d'ailleurs. À la Révolution, le taux des réfractaires, ce qu'on va appeler les réfractaires, c'est-à-dire les gens qui vont refuser, les prêtres qui vont refuser d'adhérer à l'Église constitutionnelle prévue par la République, est aussi élevé qu'en Vendée, c'est pour donner une idée, mais évidemment on n'a pas les effets de guerre qu'il y aura en Vendée. Mais c'est pour dire qu'il y a vraiment un attachement à l'Église qui est très profond. Au moment de la Révolution, la communauté des lazaristes subit évidemment la suppression des ordres, la suppression de tout cela. Et elle est visée particulièrement, vous savez que c'est avant le 14 juillet, c'est le 13 juillet, c'est le couvent des lazaristes à Paris qui est détruit le premier, juste avant la Bastille. Et c'est pas anodin parce que les lazaristes sont perçus comme des gens très proches de la famille royale. Hein. Vincent de Paul a été le confesseur de Louis XIII, etc., etc. Donc ils sont perçus comme étant des gens proches de la royauté. À Buglos, ça se passe comme dans les Landes, avec une certaine douceur. On conserve les lazaristes, malgré les suppressions, on les conserve dans la paroisse. Ils continuent d'être les prêtres de la paroisse jusqu'à ce que ce ne devienne impossible, c'est-à-dire à partir de 1792, là où les lois vraiment frappent les prêtres réfractaires, où on leur dit « bon, maintenant, si vous n'adhérez pas, vous partez, vous devez quitter le pays ». C'est ce que vont faire les lazaristes. Tous les biens vont être confisqués, évidemment. Alors, vous aurez toutes les dates des ventes successives du cheptel, du bétail, des bâtiments et de la maison monacale, ce qu'on appelle la maison monacale. Tout cela va être vendu. Et nos lazaristes vont partir principalement en Espagne, du côté de Burgos, et revenir aussi au moment où les lois s'adoucissent vers 1795, au moment où les lois s'adoucissent, 1795, qui est la première loi de séparation de l'Église et de l'État, officielle. On parle de 1905, mais en 1795, on a une première loi de séparation de l'Église et de l'État. À ce moment-là, ils reviennent, mais toujours avec prudence, puisque les anciennes lois de prescription peuvent revenir d'un moment à l'autre. On va parler de Fructuor en 1797, on a un retour en arrière et un retour très violent contre les prêtres. Donc il faut rester prudent. On peut supposer, mais ce n'est pas sûr puisqu'on est dans la clandestinité, que certains prêtres sont restés proches de Buglos et ont continué à rendre les services religieux discrètement, comme on a des foules de témoignages dans le secteur. Et je terminerai... pas être très long sur une dernière anecdote tout à fait gasconne, c'est que il y a un témoignage en 1795 d'un individu qui vient se plaindre qu'il voit des individus comme du temps de l'Ancien Régime qui viennent à la chapelle porter des offrandes, etc., qui sont manifestement pris par des gens de Buglos, etc. Et il rajoute cet individu qui se souvient très bien qu'étant porte-jalon, c'est-à-dire qu'il a aidé à arpenter les biens des lazaristes, se souvient très bien qu'on a oublié manifestement de mesurer la chapelle et tout autour de la chapelle, tout ce qu'il y a autour de la chapelle de la fontaine. Ce qui fait que ce lieu, qui finalement devait être confisqué, ne l'est pas, par une espèce de passe-passe dans lequel finalement on oublie de mesurer ce lieu qui n'existant pas, ne peut pas être confisqué. Et puisqu'il n'existe pas, on ne peut pas reprocher aux gens d'aller y faire des dévotions. C'est quelque chose de tout à fait gascon. Et donc cela permettra au lieu finalement de sortir sans gros dommages de la Révolution et de pouvoir aborder le 19e siècle. Alors ça, c'est une autre histoire. Je vous remercie.
Les lazaristes à Buglos au 18e siècle, vous venez de suivre l'intervention de Jean-Michel Morlaes. Le 4e centenaire de la fondation du site marial de Notre-Dame de Buglos, 1622-2022, retransmission de la journée d'études de la société de Borda associée au diocèse d'Eredax, journée d'études qui s'est déroulée le 30 avril 2022. La grande époque mariale du 19e siècle au sanctuaire de Buglos, voici l'intervention de Madeleine Jogan.
Donc on est heureux d'être ici à Bugot après ces deux ans qui ont été si longs pour nous tous. Donc nous y voici. Le dictionnaire de Bugos, c'est vrai que bon, ça a été une petite aventure quand même, qui a été réalisée en un temps assez court, hein, je dirais presque moins de 2 ans. On aurait pu prendre plus de temps, mais bon, ça a été ainsi. Alors pour ce dictionnaire, en fait, je crois qu'il faut quand même dire qu'il est rendre hommage aux auteurs de l'ouvrage précédent, les abbés Casono et Gasbas, car pour le dictionnaire, pour notre dictionnaire, on est parti de cet ouvrage. Alors, ce qu'il fallait quand même, c'était réactualiser, puisque l'ouvrage des abbés Casono et Gasbas ont été conçus pour le 350e anniversaire. Il manquait 50 ans. Donc, 50 ans, ils sont dépassés, beaucoup de choses en 50 ans. Et donc, il fallait l'actualiser à ce niveau-là. Il fallait l'actualiser aussi un petit peu au niveau de la présentation. Il faut quand même un peu se remettre un peu au goût du jour. D'où l'idée d'un dictionnaire. Alors, un dictionnaire, c'est une façon aussi de faire la synthèse de l'histoire de la vie, de l'histoire du sanctuaire, mais de façon un peu plus interactive, si je puis dire. Qui dit dictionnaire dit des notices qui ont des liens entre elles. C'était une façon de moderniser, de se mettre plus à la portée de chacun, de s'adresser à un plus grand public. Voilà, alors, le dictionnaire, en fait, nous parle donc de la vie, de l'histoire de Bugos, de la vie à la fois plutôt des angles, des aspects divers, que ce soit sur le plan culturel, bien évidemment, et sur le plan artistique. Et effectivement, la partie artistique a été particulièrement développée grâce notamment à l'apport de l'inventaire du patrimoine de la Nouvelle-Aquitaine. Et je pense qu'il faut vraiment remercier aussi M. Jean-Philippe Maisonneuve qui nous a beaucoup aidé pour la réalisation de cet ouvrage. Mais bien sûr, il y a aussi d'autres apports, les apports des archives diocésaines, des archives départementales, des amis des églises anciennes, bien sûr. Donc voilà, en fait, ça a été une belle synergie, en fait, qui s'est mise en place. Voilà, donc c'est le fruit d'un travail collectif, et un travail collectif est toujours quelque chose qui rend toujours, qui est toujours plus riche. Voilà. Bon, je pense que... Voilà, donc... Je pense que bon, le mieux c'est de l'acheter peut-être, je ne sais pas si. Voilà, voir peut-être sur. De voir de par soi-même. Voilà. Bon. Je dois vous parler donc de Bugos au 19e siècle. Donc, le 19e siècle a été un grand siècle marial, comme nous l'avons dit, le 17e siècle a été un grand siècle marial, mais le 19e aussi. Donc, d'abord, je voudrais dire quelques mots sur le contexte religieux et marial où s'inscrit la renaissance du sanctuaire de Bugos. Alors, plusieurs facteurs ont, favorisé la piété mariale au 19e siècle. Alors, tout d'abord, c'est le fait que la période révolutionnaire est encore toute proche. Les persécutions religieuses, le courage devant la mort, ont beaucoup frappé les esprits. Et Dax, comme vous le savez, a payé un lourd tribut, notamment avec la sœur Marguerite Rutan, qui a été béatifiée à Dax en 2011, beaucoup s'en souviennent, l'héroïque fille de la charité qui fut supérieure de l'hôpital de Dax. Après tant de violence, l'opinion aspire à l'apaisement. Par le concordat, même si cela n'est pas sans contrepartie, l'Église retrouve la liberté de culte et une reconnaissance officielle. Après tant de violence, l'opinion aspire à l'apaisement. Par le concordat, même si cela n'est pas sans contrepartie, du fait des exigences de Napoléon quand même, l'Église retrouve la liberté de culte et une reconnaissance officielle. On assiste à un réveil du sentiment religieux, le besoin d'une religion qui parle au cœur, aux filles, le besoin de vivre pleinement sa foi est ressenti tout particulièrement par les femmes qui ont particulièrement souffert de la suppression des réseaux charitables et des associations pieuses. On a parlé tout à l'heure des confréries. Les congrégations religieuses féminines se multiplient, surtout à partir de la Restauration, notamment les congrégations religieuses enseignantes. Ainsi, les Filles de la Croix, qui, dans notre région, dès 1825, ont ouvert des orphelinats, des écoles dans le Béarn, dans le Pays Basque. Les Servantes de Marie aussi, dont on va parler cet après-midi, qui s'imposent dans notre région sur le plan éducatif. Répondant au plus près des besoins de la société, essentiel est le rôle des Filles de la Charité dans les hospices, les hôpitaux, les orphelinats. Ce sont elles d'ailleurs qui furent à l'origine des enfants de Marie, des groupes d'enfants de Marie. Des femmes laïques aussi s'engagent aussi, telles la lyonnaise Pauline Jaricot, qui crée en 1826 l'association du Rosaire Vivant, la prière de méditation du Chapelet, et qui est aussi à l'origine de l'œuvre de la propagation de la foi en faveur des missions qui va parcourir au XVIe siècle. Elle sera béatifiée en mai prochain, en mois de mai dernier, à Lyon. C'est dans un contexte déjà renouvelé qu'ont lieu les apparitions de Marie. Alors, bien sûr, toute la série, rue du Bac 1830, la Salette 1846, Lourdes 1858, Pontmain 1871, Pellevoisin un peu plus tard. En germe depuis des siècles, le dogme de l'Immaculée Conception, défini par Pie IX en 1854, sera confirmé à Lourdes par la dame de Massabielle à la petite Bernadette. « Je suis l'Immaculée Conception », lui dit-elle en patois,
d'ailleurs.
En gascon.
En gascon.
Bon, je n'essaierai pas de me dire en gascon, parce que... Comme nous le verrons pour Bugloss, déterminant sera l'engagement des papes en faveur du culte marial, et nous le verrons tout à l'heure. En France, les gouvernements successifs, qu'il s'agit de la Restauration, monarchie de Juillet, ou Napoléon III, participent au renouveau religieux et marial, sur le plan artistique, grâce aux dons et commandes de l'État. Grâce aux dons et commandes de l'État, les églises se parent de tableaux ou copies de tableaux qui diffusent l'image et le message de Marie. Tout le monde connaît toutes ces représentations des Vierges de Murillo, notamment de l'Annonciation. Voilà. C'est aussi la redécouverte des ouvrages de piété mariale, le traité de la vraie dévotion à la Sainte Vierge du Vendéen Grignon de Montfort, ou les œuvres d'Alphonse de Liguori, de l'italien Alphonse de Liguori, qui propose une spiritualité plus ouverte aux manifestations de la dévotion populaire, et surtout à une époque marquée encore très fortement par le jansénisme. À noter aussi la monumentale histoire du culte de la Vierge Marie en France, de l'origine à 1867, du père Hamon, qui est curé du Saint-Sulpice, celui-là même qui composa en l'honneur de Notre-Dame de Bugloss une prière récitée ici depuis tant de siècles, « Ô Marie, comme j'aime à vous honorer dans ce sanctuaire que vous êtes choisi depuis tant de siècles. » Alors maintenant, revenons tout particulièrement à Bugloss. Alors, Bugloss, on peut voir plusieurs phases dans cette Renaissance. De 1802 à 1820, on assiste à la réanimation du sanctuaire. Le concordat apporte des changements essentiels. Le corps épiscopal est entièrement renouvelé. Le diocèse d'Aire supprimé est rattaché à Bayonne. L'évêque Loison, nommé en décembre 1802, est à la tête d'un immense diocèse qui englobe plus de 3 départements, l'Aude, Basse-Pyrénées, Haute-Pyrénées, des portions aussi des anciens diocèses d'Auf, de Bazas et de Bordeaux, et même du Comminges. Alors surtout, il doit relever les ruines matérielles et morales de 12 ans de troubles, gérer les dissensions du clergé, entre anciens réfractaires, anciens jureurs ou des prêtres qui refusent aussi le concordat. Et il doit gérer aussi le manque de prêtres. N'étant pas une succursale, Bugloss n'a pas de desservant, bien sûr, de curé, et dépend de plus, avant d'être rattaché à Gourbera en 1808 par décret impérial. Heureusement, plusieurs prêtres revenus de leur exil en Espagne vont s'investir à Burgos qui attire de nombreux pèlerins. Par exemple, le Montois Les Bazeilles, ancien carme de Dax, qui officie à Burgos de 1803 à 1806, le Lazariste Vécette, officiellement des servants de Tétieu, qui déploie jusqu'en 1817 un grand zèle à Burgos. Le Lazariste Solignac, qui curé de Pontons, se met aussi spontanément au service du sanctuaire. Le fait que Burgos soit rattaché à Bourbora n'entrave pas le développement du pèlerinage. En 1808, le conseil municipal de Pouy atteste même la grande influence des pèlerins auprès de la Madone. Je cite « Le public a tant de dévotion pour Burgos qu'il s'y transporte en foule, soit en procession, d'un grand nombre de communes voisines, soit par des pèlerinages venus d'environ 20 lieues, ce qui veut dire à peu près 100 km à la ronde, ce qui est quand même pas mal. » De 1820 à 1850, on assiste vraiment à la reprise en main institutionnelle. Après 1820, de façon générale, les évêques concordataires renouent avec les traditions du XVIIe siècle. Ils donnent une impulsion déterminante à leur diocèse. Ils choisissent leurs collaborateurs, cherchent à pallier le manque de prêtres, ont le souci du clergé, de la formation du clergé, et instruisent les fidèles par lettres pastorales et par mandement. De 1820 à 1822, c'est Monseigneur d'Astros, une très forte personnalité qui fera futur archevêque cardinal de Toulouse, qui a eu d'ailleurs maille à partir avec Napoléon, gère l'immense diocèse de Monseigneur Loison, dont il a hérité, donc, et il en réorganisa la partie bayonnaise. À partir de janvier 1823, les départements des Hautes-Pyrénées-Landes détachés de Bayonne vont avoir chacun leur évêque et le diocèse d'Aire va désormais coïncider avec le territoire du département des Landes, le diocèse actuel. Après lui, Monseigneur le pape de Trévernes, venu de Bretagne, est un intellectuel confirmé aux fortes convictions royalistes, et c'est vrai, c'était un peu à l'époque pour l'alliance trône et hôtel. Durant son cours épiscopal, il sera nommé à Strasbourg en 1826, la vie a bien repris à Burgos. Plusieurs fois par an, même des rassemblements, ils sont importants, et d'après un témoin, il y a même une petite animation de marchands d'objets de piété devant la chapelle. C'est durant son épiscopat qu'eut lieu la guérison jugée miraculeuse de la jeune Anne Daubré, qui avait perdu l'usage de sa jambe gauche, et qui, en signe de reconnaissance, laissa, dit-on, ses béquilles à la chapelle. L'épiscopat du Toulousain Dominique Marie Savy marque la reprise institutionnelle. C'est un administrateur né, c'est lui qui a rédigé les statuts d'ailleurs du diocèse. Il procède à une vigoureuse réorganisation du sanctuaire, avec la création d'un conseil de 5 membres, qui est présidé d'ailleurs par le curé de Pontons. Il gère les finances aussi pour éviter les malversations éventuelles. Voilà. Mais sa préoccupation est quand même le rachat du monastère des Lazaristes pour y établir une structure religieuse stable, capable de faire vivre le pèlerinage dans la durée. Ce sera l'œuvre de son successeur, toulousain comme lui, Monseigneur Yann-Luc, qui fut dès 1839 son coadjuteur. Et c'est vrai, c'est son coadjuteur, il s'est été choisi d'ailleurs. Et Mgr Lannemuc, diapo suivante, qui sera l'initiateur, le constructeur et le grand promoteur du sanctuaire. En décembre 1844, le monastère des Lazaristes qui vient d'être acheté accueille 4 missionnaires diocésains pour l'animation spirituelle du sanctuaire et l'évangélisation du diocèse. Ainsi naît la communauté des missionnaires, connue sous l'appellation missionnaire de Notre-Dame de Burgos, pardon, une œuvre placée sous la protection de la Vierge Marie, qui sera dotée d'un règlement qui évoluera d'ailleurs au fil des décennies. Avec le concours de l'abbé Dulin, qui est son bras droit et qui est un grand dévot de Marie, Mgr Lannemuc promulgue les œuvres spirituelles pour stimuler et récompenser la piété des fidèles. Nombreuses sont alors les faveurs papales. En 1845, le pape Grégoire XVI accorde au sanctuaire des indulgences plénières aux grandes fêtes de la Vierge, au mois de mai aussi, et le jour de lundi Pentecôte notamment. Grâce au pouvoir accordé par le pape, Mgr Lannemuc érige la confrérie du scapulaire du Mont Carmel. L'ordonnance établit, je cite, que tous les fidèles qui, sous les conditions requises et seront agrégés par le curé de la dite église, jouiront à perpétuité de tous les privilèges et indulgences accordés par les souverains pontifes. Troisième période, ce sera, on pourra dire, la reconstruction du sanctuaire à la fin de qui correspond à la fin de l'épiscopat de Mgr Yannick Luc. Pour accueillir les pèlerins de plus en plus nombreux, depuis l'ouverture notamment de la ligne de chemin de fer de Bayonne à Bordeaux, la chapelle existante est bien trop petite, elle est vétuste et humide. Il manque une église. Il faut une impulsion, donc redonner un élan, trouver des moyens financiers et humains. Grande est la solidarité entre les sanctuaires. Avec la vague de Mgr Yannick, deux missionnaires, les abbés Fartouat et La Maison, se rendent au sanctuaire de Verdelet, un sanctuaire en pleine renaissance sous l'induction de Mgr Donné, l'archevêque de Bordeaux, pour prendre en quelque sorte des idées. À leur retour, une souscription est lancée. Son succès permet la pose de la première pierre le 30 juillet 1850. Les jubilés de 1851 puis celui de 1854, année de la proclamation du dogme de l'Immaculée Conception, vont ramener encore, bien sûr, l'attention vers Budgos. L'évêque Yannick Luc décide que les aumônes jubilaires soient affectées à la construction de l'église. L'appel est entendu, les dons affluent. Depuis 1852, il peut compter sur les servantes de Marie, fondée en 1842 à Angers par le père Sestac, qui ouvre à Bugos une maison avec noviciat, pensionnat et école, et ce sera l'objet d'une communication donc, cet après-midi. Construire, décorer l'église, c'est l'occasion de rassembler tous les talents, toutes les générosités. Vicaires généraux, missionnaires, artistes de renom, artisans locaux, historiens, érudits, donateurs de tous horizons, et c'est une belle synergie qui se met en place. Au printemps 1855, la construction est assez avancée pour installer la statue de Notre-Dame qui a retrouvé ses couleurs primitives. Dans la niche décorée de l'abside et pour inaugurer la partie déjà réalisée correspondant à peu près au tiers de l'église actuelle, c'est-à-dire au niveau à peu près de la chair, avait été réalisée déjà l'abside, le chœur, les sacristies, les chapelles latérales et l'amorce de la nef. Donc. Un moment intense inscrit dans les annales de Bugos, occasion d'un immense rassemblement. Tous les cœurs étaient heureux de ce nouveau triomphe décerné à la reine du ciel, peut écrire le missionnaire Vieille Dent à son évêque. Le programme iconographique est largement consacré à Marie. Comme nous le verrons cet après-midi, les vitraux du cœur et de l'abside manifestent la part prise par Marie dans l'œuvre du salut. Donc, un mois plus tard, la consécration de l'autel a lieu. Le lendemain, l'évêque qui sent sa fin prochaine remet sa personne, son diocèse et tous les fidèles à Notre-Dame. L'acte de consécration est tout empreinte de son amour pour Marie Immaculée. Je cite, « Immaculée et très sainte Vierge Marie, il nous est donné de voir votre basilique, grande et magnifique, votre statue rendue à sa beauté première, etc. Notre cœur sera bon de joie, Immaculée, très sainte Vierge Marie. » La piété mariale populaire est à la mesure des manières du temps. Bugos devient terre d'élection vers laquelle se dirigent les cœurs blessés, les corps souffrants. En 1855, l'épidémie de choléra qui sévit à Bayonne-Saint-Esprit, conduit au curé de Saint-Esprit, a exigé qu'un train de 14 wagons soit mis à disposition vers Bugos. Lorsque le mal décroît, le vœu est formé d'y revenir chaque année en pèlerinage, une tradition maintenue jusqu'à nos jours. En 1856, d'accident échappé à l'épidémie, c'est l'archiprêtre Bougeon Gérardot, qui est animé d'une grande dévotion à Notre-Dame de Bugos, qui mit la ville sous la protection de Notre-Dame et inaugura quelques années plus tard, en 1871, la magnifique rosace que vous voyez ici à gauche, que vous voyez dans le transept sud de la cathédrale, où on voit Notre-Dame qui est au milieu, qui est sur son trône, en signe de reconnaissance. En 1857, sous la plume de l'abbé Labarrère, une histoire de Notre-Dame de Bugos fait connaître le sanctuaire. Dans cet ouvrage, à visée apologétique, figurent les procès-verbaux des guérisons corporelles, celle d'un colonel carliste guéri d'une profonde blessure lors d'une bataille, d'où la jeune dacquoise Caroline de Pouluzan qui retrouva en 1853 l'usage de ses jambes, et beaucoup d'autres. autant de phénomènes surnaturels perçus comme des manifestations intervenues par l'intercession de la Vierge Marie. Nous en arrivons après 1857, avec des évêques qui vont continuer l'œuvre mariale et consolider tout ce qui a été fait précédemment. Le 30 juin 1856, Monseigneur Lannelut décède à Paris alors qu'il s'est rendu à la capitale pour le baptême du prince impérial. C'est Monseigneur Irabourg qui lui succède. C'est un proche des pères Sestac et Garicois. Pasteur, plus qu'administrateur, il a beaucoup de projets pour Bugloss. Vivement l'achèvement de la belle église Notre-Dame de Bugloss et la reprise des travaux longtemps interrompus. Malheureusement, son épiscopat est écourté par un accident mortel. Cela dit, il a eu le temps d'ajouter à son titre d'évêque d'Erre celui d'évêque de Dax, origine du titre diocésain actuel. Nommé en 1859, Monseigneur Épivan a une sensibilité toute mariale. Loin d'oublier le sanctuaire Sainte-Anne de sa Bretagne natale, il se réjouit, je cite, d'être l'héritier d'un sanctuaire antique où depuis des siècles Marie opère tant de merveilles. En 1860, dans un de ses premiers mandements consacrés au culte de la Très Sainte Vierge Marie dans le milieu de la France, il plaide avec un enthousiasme communicatif la cause du sanctuaire de Bugloss, ce fait le centre de Notre-Dame. Les sanctuaires de Marie ne sont-ils pas de vraies forteresses qui protègent les diocèses ? Bugloss, tout l'avenir du diocèse est là, entre les mains de Marie. Nous avons hâte de voir ce sanctuaire atteindre son ampleur et sa magnificence pour en faire la consécration solennelle. Ces appels passionnés pour Bugloss portent leurs fruits. Grâce aux fonds recueillis, il peut lancer les travaux pour finaliser l'église existante et construire la seconde partie. Le concours des missionnaires diocésains est décisif, celui de Joseph Dupuy, dont la vie durant 43 ans se confond avec celle de Bugloss. Tant dans le décor sculpté que sur les vitraux, Marie est présente. À la chapelle du Rosaire, l'un des vitraux la représente, entourée de Saint Dominique, vous voyez à gauche, et de l'ardent apôtre du Rosaire, et du carmanguais Saint Simon Stock, à qui la Vierge remit le scapulaire au cours d'une vision. Comme dans d'autres sanctuaires, comme 10 ans auparavant à Verdelet, Monseigneur Épivan veut pour la Vierge de Bugloss et l'enfant Jésus l'honneur et le privilège de la couronne d'or. La supplique qu'il adresse à Rome est exaucée. L'acte officiel signé en avril 1866. La cérémonie du couronnement a lieu le 9 septembre, fête grandiose, moment de joyeuse ferveur populaire. De tous les points des Landes et des diocèses voisins, encadrés par les congrégations religieuses, les missionnaires, le clergé, une foule de pèlerins évaluée à plus de 30 000 se dirige vers le sanctuaire en calèche, diligence, wagon, brosse, une charrette d'autrefois, traînée par des mules. Monseigneur Donné, archevêque de Bordeaux, déjà venu 2 ans auparavant pour inaugurer le berceau de Saint-Vincent de Paul, préside la messe en présence de plusieurs autres évêques, Monseigneur Laurence, évêque du sanctuaire, évêque des apparitions de Lourdes, l'évêque du Puy, autre sanctuaire marial. On y entend alors la célèbre cantate dont les paroles ont été écrites par l'évêque lui-même. Ô Vierge de Bugloss, ô fidèle patronne, penche ton front vers tes landais, ils t'apportent leur cœur, leur chant, une couronne, à toi leur amour pour jamais. Ce sont ces paroles mises en musique par l'organiste de la cathédrale d'Erre, Puig Iacsubit, qui retentirent 10 ans plus tard, lors des obsèques de Monseigneur Épivan. Monseigneur Épivan qui voulut reposer à Bugloss sous le regard de Marie dans la chapelle du Rosaire. Le couronnement donne un nouveau souffle au pèlerinage. L'octave de la Nativité du 8 au 15 septembre, avec ses diverses manifestations, messes, prédications, conférences, processions, louanges, est depuis lors l'événement religieux majeur de Bugloss et du diocèse. À partir de 1867, les ex-votos témoignent des grâces reçues, corporelles ou spirituelles. Dans le magasin d'objets de dévotion, le pèlerin peut aussi se procurer images pieuses, médailles, statuettes, chapelets. En 1872, ce sont 70 pêcheurs cabretonnés, miraculeusement rescapés d'une violente tempête, qui se rendent à Bugloss, à pied, pour remercier la Madone des Landes qui les a secourus. dernier évêque vendéen du XIXe siècle, il débordera sur le XXe d'ailleurs, Monseigneur de Lamoine, venu du Nord, qui voit dans le sanctuaire d'emblée le plus beau fleuron du diocèse. Le 10 janvier 1878, il obtient de Pie IX que Notre-Dame de Bugose soit instituée patronne universelle du diocèse d'Aire et de Dax en la fête de la Nativité de Marie. Le 8 septembre devient fête liturgique. Des mesures qui placent Bugose dans une situation privilégiée renforcent le lien du diocèse avec Rome, exaltent la puissance de Marie. Lors du jubilé extraordinaire de 1881, l'évêque encourage tout son diocèse, clergé et fidèle, à se tourner vers le sanctuaire landais. Depuis lors se succèdent les pèlerinages paroissiaux des quatre coins des Landes, Chalosse, Marancin, Marsan, Haute-Lande, du littoral, des pays de la Dour et du Leuil. Les pèlerins landais se rendent au moins une fois par an à Bugose pour prier la patronne du diocèse dans la nouvelle église. Toute bannière déployée, il se range en procession vers la chapelle des miracles, alternant prières, chants liturgiques et cantiques populaires. Mais Notre-Dame de Bugose attire bien au-delà des Landes. Ainsi, dans la semaine religieuse, fondée d'ailleurs par Monseigneur de Lannoy en 1890, c'est l'organe donc de l'évêché, l'organe de presse, est noté le 17 mai 1792 le pèlerinage de 1200 Angevins. Des habitants d'Angers, donc, qui après une halte au berceau de Saint-Vincent de Paul se rendirent au pied de Notre-Dame. Le même jour, un train déposé à la halte de Bugose, 150 Hollandais, mais pas de la Haute-Lande, des habitants de Maastricht, des pèlerins de Maastricht, qui après avoir prié à Lourdes, voulaient saluer la Madone landaise. Pour le 25e anniversaire du couronnement en 1891, les missionnaires revêtus de leur habit, alors l'habit qui a été créé aussi par l'évêque Monseigneur de Lannoy. Alors c'était un camail, vous voyez ici avec le père Ramazel, un camail qu'on appelait une mosette, je crois, une mosette avec des boutons bleus et retenue par un ruban, couleur de Marie, un ruban bleu. Qui occupent les missionnaires revêtus de leur habit vont occuper les stalles nouvellement installées. Cette année-là, la semaine religieuse montre plusieurs encore guérisons spectaculaires, celle notamment d'une servante de Marie qui en témoigne. 1894 marque le 50e anniversaire de l'arrivée des missionnaires diocésains à Bugose, ces apôtres totalement voués à Marie, qui furent les auxiliaires aussi du clergé des paroisses, qui ont largement contribué à la restauration du pèlerinage. La même année, avec le concours du missionnaire Ramazek, le vaillant chevalier de Notre-Dame, comme le nomma l'abbé Gère à l'époque lors de ses obsèques, le père Ramazek y œuvra à Bugose et aussi à Méglise, votre sanctuaire marial. Monseigneur de Lannoy finalise les travaux. Les tourelles sont achevées, les premières cloches installées et bénites lors de l'octave de 1894. Le 8 septembre 1895 a lieu la bénédiction de la tour et celle des 19 autres cloches. Grâce à l'ingéniosité du chanoine Maisonnat, que vous voyez ici à droite, retentit pour la première fois le célèbre carillon que l'on entendra cet après-midi. Un an plus tard, à nouveau, le 8 septembre, deux anges musiciens sont installés au sommet de la tour, les ailes déployées, sonnant de la trompe. Le cœur du diocèse peut désormais battre au rythme des fêtes mariales, des cérémonies et des pèlerinages de Bugose. Je vous remercie.
La grande époque mariale du sanctuaire de Bugose au XIXe siècle, vous venez d'entendre l'intervention de Madeleine Jogan. Le 4e centenaire de la fondation du site marial de Notre-Dame de Bugose, 1622-2022, retransmission de la journée d'études de la Société de Borda, associée au diocèse d'Aire et d'Aix, journée d'études qui s'est déroulée le 30 avril 2022.